Frédéric Peters, je suis ravi qu'on m'ait demandé d'animer cette rencontre. J'aime son travail depuis très longtemps. Pas tant, on n'est pas si vieux que ça. Depuis quelques années. Donc voilà, ça me ferait très plaisir. J'espère que je vais arriver à poser des questions intéressantes. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu des origines de ton travail. Comment tu as commencé à travailler dans la BD, tes influences, la question bateau à quel moment tu as décidé de devenir dessinateur et pourquoi voilà.
Alors, à quel moment j'ai décidé de devenir dessinateur, ça, j'ai pas le souvenir, mais ça doit se jouer, je sais pas, entre 18 et 20 ans. Mais j'ai toujours fait ça, mais simplement, comme beaucoup de dessinateurs, ça paraissait extrêmement loin et inatteignable. Et en fait, pas tant que ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait l'équivalent du bac en France, une maturité.
Faut dire que t'es suisse.
Oui, voilà, je suis suisse, ouais. Oui.
Expliquer.
En latin. Et ensuite, j'ai fait. Après, je suis parti un an en voyage. Et après, j'ai fait 3 ans de communication visuelle. Alors, la communication visuelle, c'est une espèce de chose un peu sombre où on manie des budgets, des plans marketing et plein de choses totalement affreuses. Ce qui m'a été très utile parce que j'ai réalisé que, en fait, si on voulait éviter de faire des choses affreuses dans la vie, il fallait faire des choix. Voilà. Et j'ai donc ensuite décidé de travailler en tant que bagagiste à l'aéroport de Genève, le matin, à partir de 6 heures du matin. Et je me suis dit, moi, je veux faire de la bande dessinée, mais je veux la faire librement. C'est-à-dire, je ne veux pas aller me vendre chez des éditeurs, je ne veux pas de marketing et de tous ces trucs-là. Et donc, parallèlement, on a décidé avec 3 amis de fonder une maison d'édition. Là, on parle du début des années 90, ouais, c'est ça. Et donc, c'est la grande période du début de l'association et de l'édition indépendante en général en France. C'est une bulle qui s'est un peu dégonflée depuis, mais il reste quelques éditeurs. Et donc, c'était le moment où tout paraissait possible, où on pouvait faire les choses nous-mêmes. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. On a fondé une maison d'édition qui s'appelle Atrabil. À Genève et voilà, on a en fait c'est une histoire de fanzineux en fait, c'est-à-dire que c'est des fanzines agrafées dans une cave au début quoi. Et puis on affine ce qu'on raconte, on affine la fabrication des objets. Et puis voilà, et au bout de 4 ans de dessin l'après-midi et la nuit et de porter des bagages le matin. Eh bien, j'ai fait, ça tombe pile poil, voilà, un livre qui s'appelle Pilule Bleue, qui est là, et qui a rencontré le succès. Alors, voilà. Après, c'était parti, et pour la maison d'édition, et pour moi.
T'as commencé en faisant des histoires courtes, c'est ça ?
Ouais, alors le début.
Dans des fanzines ou dans.
Le début, c'est vraiment des fanzines, les nôtres, et puis des fanzines à droite à gauche. Puis après, les fanzines se raffinent un peu. Et l'objet devient un peu plus solide, un peu plus joli. On commence à contacter des éditeurs et des relieurs plutôt que de faire ça nous-mêmes dans une cave, etc. Et donc, ça a commencé avec une revue qui, en fait, était calqué sur le modèle du lapin de l'association, c'est-à-dire où les auteurs sont évidemment pas payés, mais qui fonctionne comme un laboratoire ouvert à toutes les expériences. Et c'est un excellent moyen et de faire ses premières armes, c'est-à-dire de comprendre comment on raconte une histoire, de comprendre qu'est-ce qu'on a envie de raconter déjà. Et ensuite pour la mise en forme, etc. Donc c'est, on apprend son métier. Et puis d'un autre côté, on rentre dans un réseau, c'est-à-dire qu'on rentre dans un réseau d'édition, d'abord francophone, et puis en fait même ensuite international, même si c'est extrêmement confidentiel. Donc ça ouvre des contacts, des rencontres, voilà, et la machine se met en route comme ça en fait.
Une émulation aussi, si tu bosses avec d'autres dessinateurs, à plusieurs, on se pousse.
Absolument, quoi. Oui. Le début, c'est exact, c'est tout à fait ça. C'est vraiment une bande d'amis et qui profitent de l'énergie des uns des autres, quoi. Et non, mais même c'est une émulation. Ensuite, même avec des gens qu'on n'est pas censé rencontrer. C'est-à-dire que au tout début d'Atrabil, par exemple, David B est venu nous voir sur un sombre stand rayon fanzine à Angoulême. Voilà, je me rappelle de ça. Je me rappelle que tout d'un coup, parce que David B pour nous c'était Paris, c'était un des auteurs qu'on admirait, etc. Et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on est rentré dans une famille, en fait. Je ne veux pas dire que la BD est une grande famille merveilleuse, hein, mais c'est un milieu.
Un petit peu reconnu par quelqu'un qui
te valide. Reconnu, quoi. Même pas reconnu, mais tout d'un coup, on réalise que ce qu'on fait est visible par des gens dont on pensait qu'ils étaient inaccessibles. Et ça rapproche les strates, en fait. Ça resserre les strates. Et on se dit, mais attends, mais en fait, c'est pas si compliqué. Voilà. Enfin, c'est pas si compliqué à condition qu'on travaille.
Mmh. Ouais. Avant ça, t'as dit tout de suite, j'avais envie de faire de la BD. Qu'est-ce qui t'a donné envie? C'est quoi tes influences, les chocs qui t'ont fait dire, ça peut être pas forcément de la BD, hein, mais qui t'ont.
Bah, en fait, moi, c'est pas des. On peut parler d'influence après, si vous voulez, mais ça se fait pas en fonction d'influence ou de référence. Ça se fait en fonction du plaisir, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que moi, c'est ma came, quoi.
Ouais, d'accord. Okay.
Moi, je fais ça depuis que je suis gamin, et c'est une espèce de sensation, de totale évasion et de totale sensualité. C'est vraiment un plaisir, quoi. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et si je le fais pas, je suis malheureux. Donc, en fait, c'est très simple, vraiment.
C'était évident.
Ouais, c'est évident, c'est pas évident que tu vas réussir à
c'est
en vivre.
C'est évident que tu prends tellement de plaisir que.
C'est évident que même si j'avais été banquier, j'aurais dessiné mes collègues de bureau, quoi. Ouais.
Donc, alors les influences, venons-y.
Alors, bon, en gros, c'est un peu évident. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé par être un monomaniaque de Tintin, moi. C'est-à-dire, enfant, adolescent, jusqu'à 14-15 ans, j'étais un obsédé de Tintin. C'est-à-dire que je les connaissais tous par cœur. Je connaissais même par cœur les bouquins de Benoît Peters. j'ai redessiné des séquences entières de Tintin.
Dans le style d'Hergé ou à ta manière
Non, ouais, en essayant de copier, de singer le style d'Hergé. Voilà, il y a des gens qui sont passés par Astérix, d'autres par Franquin, etc. Moi, c'était Hergé. C'est-à-dire que déjà, en fait, à l'origine, mon rapport à la bande dessinée est un rapport de voyage et de premier degré. C'est-à-dire que ce que j'aime moi quand je lis, c'est rentrer dans un livre et oublier que je suis en train de lire un livre. Astérix pour moi est par exemple un exercice de satire, un exercice d'hommage et un exercice de. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de deuxième degré dans Astérix. Moi, je n'ai jamais trouvé la sensation d'évasion et d'aventure en lisant Astérix.
On ne les voit quasiment pas voyager. Ils vont d'un point à un autre, mais on les voit. Alors que Tintin, il prend le train.
Exactement.
Il est toujours sur des véhicules, en fait.
Voilà. Et donc, moi, mes premières sensations viennent de là. Et puis ensuite, il y a eu... je pense qu'il y a eu la découverte de Moebius à 14-15 ans, voilà, qui tout d'un coup m'a fait réaliser que Tintin, c'était quand même... je ne veux pas dire du mal de Tintin, mais c'est très sympathique. c'est vrai que c'est sympathique, Tintin. Mais il n'y a pas de sueur, il n'y a pas de sensations troubles, il n'y a pas de... C'est extrêmement lisse.
Il y a les cauchemars quand même.
Les cauchemars, ils font référence à un certain art pictural.
Ouais.
C'est très référencé, ça n'est pas... je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que c'est très confortable. Voilà. Tintin, c'est une lecture confortable. Et en lisant Moebius, j'ai réalisé qu'on pouvait tout d'un coup être troublé par, mais intimement troublé, et même ne pas comprendre le trouble qui s'opère en nous, en fait. Quelque chose de l'ordre du cauchemar ou de l'inconscient. Et en plus, il y a la virtuosité du dessin, tout d'un coup. C'est-à-dire que Tintin, moi, j'ai jamais vraiment réfléchi au dessin dans Tintin. J'étais fasciné par les crayonnés d'Hergé, par exemple. J'avais plein de livres où on voyait des facsimilés, des crayonnés de Tintin au Tibet, des choses comme ça, que je trouvais d'une beauté incroyable et qui se perdaient, en fait, à la lecture des livres. mais qui était remplacée par la magie du rythme, la magie de l'écriture, la magie des personnages, voilà. Mais la sensation de la jouissance du dessin était en fait absente des albums terminés.
Oui.
Et dans Moebius, il n'y a pas ça. Dans Moebius, tout d'un coup, il y a une espèce de simple beauté sensuelle, en fait. Voilà, ça c'est un des grands tournants. Et puis ensuite, après, j'arrive à 16, 17, 18 ans, puis là, c'est la boulimie, là. Alors, du coup, se superposent les premières éditions d'Akira, qui ont été un choc. Avec la découverte de l'underground américain, Crumb, les premiers imports américains, les premiers Chris Ware, les premiers Chester Brown, pardon, Joe Matt, des choses comme ça, Mazzucchelli, les premiers Mazzucchelli. Et puis après, c'est le bordel. Ça va dans tous les sens, ça va de Forest à voilà. Mais donc mes saints patrons. C'est comme les chauffeurs routiers qui ont des petites médailles sur leur tableau de bord. Moi, c'est Hergé et Moebius, ouais.
D'accord. Tout à l'heure, tu parlais donc de Pilule Bleue, qui était ton premier bouquin. On peut en dire deux mots. C'est un bouquin autobiographique qui est tombé à une période où ça marchait plutôt bien, les bouquins autobiographiques.
Ouais.
Et du coup, ça t'a fait connaître d'un coup.
Voilà.
Est-ce qu'on peut, tu peux juste raconter l'argument peut-être?
Alors,
pour les gens,
c'est un. Bah, il se trouve que, enfin, un an à peu près avant de faire le livre, j'ai rencontré ma compagne d'aujourd'hui, et qui est la mère de ma fille maintenant, et qui était HIV positive, c'est séropositif, séropositive. Et elle avait un enfant, elle, d'une précédente rencontre, qui avait 3 ans à ce moment-là, qui venait d'avoir 3 ans, qui était séropositif lui aussi. Mais en fait, tout ça est assez anecdotique, parce que c'était une rencontre, une rencontre amoureuse, en fait. C'est pas une rencontre séropositive, c'est une rencontre humaine, voilà. Mais tous les livres se font en rapport avec les précédents. Moi, ça a toujours été comme ça. Et là, je sortais d'une expérience un peu étrange sur un livre qui s'appelait « Les miettes », qui doit encore courir dans des bacs de collectionneurs, qui doit être assez cher maintenant. Mais qu'on va peut-être rééditer avec Atrabile, on ne sait pas encore. Mais qui était un bouquin très compliqué à faire, dont je n'étais pas l'auteur du scénario. C'était un très bon copain à moi qui s'appelle Mathieu, enfin, qui se fait appeler Ibn al-Rabin, qui avait écrit un scénario complètement barré, avec des cow-boys suisses qui entreprennent de détourner un train pour prendre possession du Liechtenstein. Et ils mettent 80 pages à se rendre compte qu'on ne peut pas détourner un train, évidemment, bande d'abrutis. Voilà. Mais c'était très très drôle, et très bien écrit. Mais c'était plein de trains volants, de cow-boys à cheval, et etc. Donc c'était très compliqué à faire. Et en plus, ça devait se faire avec l'association. Et finalement, ça a capoté pour des raisons totalement ubuesques que je vais vous épargner là. Et donc je suis sorti de là un peu fatigué, et un peu, j'avais envie de me laver, en fait, de tenter un truc. Et donc j'ai décidé de prendre l'histoire la plus pratique et la plus proche, c'est-à-dire la mienne, à ce moment-là, parce qu'il y avait là une matière émotionnelle, en fait, qui m'intéressait. Et je me suis dit, je vais faire le contraire des miettes, c'est-à-dire je ne fais plus de crayonné, pas de train, pas de chevaux. On va aller directement à l'essentiel, et je vais supprimer les étapes habituelles de la bande dessinée, c'est-à-dire l'écriture d'un scénario, le découpage du scénario, le crayonné, l'ancrage. Et j'ai décidé de supprimer tout ça. Et à l'origine, ça ne devait être qu'une expérience personnelle. Ça devait être un truc entre moi et moi. Et donc, j'ai pris une page. Et c'est pour ça que le début de Pilule Bleue, et par la suite, d'ailleurs, le début de Lupus, qui est une série de science-fiction qui a suivi, commence sur le même mode, avec des pages abstraites. Parce que, réellement, je ne sais pas comment commencer le livre. Donc, je me transforme en photocopieuse, en fait. Alors, je prends un tas de feuilles blanches, comme ça, et je prends la première feuille blanche, et je dessine comme on dessine quand on est au téléphone. Et ça a commencé comme ça. Et j'ai commencé, au fur et à mesure que les dessins se faisaient, à élaborer mentalement ce que je voulais raconter. Et le fait de mettre en forme ces visions et ces envies me laissait le temps d'imaginer la suite. Et ça se fait en esprit d'escalier, comme ça. Et je m'étais fixé donc de ne rien écrire à l'avance, de ne pas crayonner et de ne rien redessiner. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dessins assez moches, beaucoup de trucs qui ne marchent pas très bien. Mais par contre, il y a une énergie vitale dans ce livre. et qui m'a permis, moi, de me, complètement de me décomplexer, en fait. Parce que comme c'était pas censé être un livre, je me suis dit, bah, si c'est pourri, bah, c'est pourri, voilà. Et si j'arrive pas au bout, bah, j'arrive pas au bout, tant pis. Et j'ai fait 40 pages comme ça, que j'ai montré à Daniel, qui était qui est toujours mon copain, qui est l'éditeur d'Atrabile, et qui, après avoir marqué un petit temps de silence, m'a dit, mais il faut absolument en faire un livre. Fais-en 800 pages, mais faisons un livre avec ça, quoi. Et donc, je me suis dit, non, on va pas faire de livre, mais je continue. Et puis, je suis retombé sur mes pattes à la fin. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'avais la sensation d'avoir bouclé un truc au bout de à peu près 200 pages. Et voilà, et le livre est sorti. Je me disais, c'était une époque où moi, je vendais 700 bouquins, quoi. Donc, je me suis dit, on va en vendre 750. Et après, ça nous a échappé. Et voilà, quoi.
Gros succès. Là, c'était en 2001, donc. Alors, j'ai lu, j'ai pas trop de précision, j'ai vu ça sur le net. Tu faisais des dessins pour un téléfilm adapté du bouquin, ouais. C'est ça ?
C'est-à-dire qu'après de multiples circonvolutions de droits et de producteurs, etc., parce que le cinéma, tout prend du temps et tout est compliqué, il se trouve que là, finalement, il va y avoir une adaptation en téléfilm, ouais, donc pour Arte. Et donc, je dois redessiner plein de choses.
Qui vont apparaître dans le film, en fait.
Qui vont apparaître
dans le film. Tes dessins vont être dans le film.
Oui, alors c'est soit des choses qui habillent le décor, c'est-à-dire qui habillent le bureau du personnage principal ou des choses comme ça, ou où il y aura des petites séquences animées, il y a des choses assez marrantes. En fait, c'est assez fidèle. Moi, je me suis totalement désintéressé de tout ça. Hein. Mmh. Enfin, pas désintéressé, c'est pas le mot, mais je me suis
pas laissé faire.
Ouais. Mmh. J'ai laissé les clés, j'ai dit, vous faites ce que vous voulez. Et en fait, à l'arrivée, c'est assez fidèle au livre. Et donc pour ceux qui l'ont lu, il y a des apparitions dans ce bouquin. Il y a un rhinocéros blanc qui apparaît à certains moments du livre. À un moment, il y a un dialogue avec un mammouth qui sort de nulle part. Et ils ont décidé d'intégrer ça en animation, qui viennent en arrière-plan comme ça. Donc il faut faire tout ça. Alors moi, je fais pas les animations, mais je fais ce qu'on appelle les images clés. Voilà.
D'accord.
Donc il y a beaucoup de boulot.
Et ça sera, on verra ça quand.
Je ne sais pas encore, mais le tournage là, en ce moment, il se fait là maintenant. Et après, il y a de la post-production. Je crois que jusqu'en février, il y a de la post-production. D'accord. Et après, je ne sais pas.
On est quand même dans un festival de science-fiction. Et ça, on va pouvoir parler de Lupus, alors, qui est le projet d'après, chronologiquement. De 2003 à 2006, ça a été publié. 4 tomes. Et qui est un projet de SF... Je ne sais pas comment. Pour moi, c'est l'histoire d'une fuite entre un couple, et c'est aussi une histoire sur la. Je l'ai relu là, et j'ai un truc qui m'a. Et là, ça m'a semblé évident. C'est une histoire sur la paternité. Voilà, sur le fait de devenir père, et qui est comme une fuite en avant. Je ne sais pas si.
Alors, Lupus, c'est... Bon, de nouveau, c'est l'histoire des livres qui rebondissent les uns sur les autres. Après Pilule Bleue, on m'a dit. Plein de lecteurs et de journalistes qui me disaient, mais c'est quand même fantastique cette vision positive de la vie que vous avez, comme ça face à la maladie, vous êtes plein de vie et d'optimisme. Puis alors bon, moi comme je suis bonne patte, je disais oui, mais en fait je me suis dit, mais ça me ressemble pas, ce qu'on me renvoie là me ressemble pas. Donc du coup j'ai eu l'envie de travailler sur des sensations et des émotions un peu plus sombres, un peu plus solitaires, un peu plus troubles, voire presque glauques des fois. Voilà. Et donc c'est parti de là. Et puis moi je suis pas, c'est-à-dire j'étais venu ici il y a de nombreuses années, et j'avais déjà l'impression d'être un peu un cheveu sur la soupe. Et j'ai encore ça cette année. C'est-à-dire, en fait, moi, je ne suis pas... j'ai pas une culture SF, moi. Ma culture SF, c'est les succès populaires du cinéma. À l'adolescence. Et Moebius.
C'est-à-dire, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Mais ça fait quelque chose d'un peu hétéroclite. Et j'ai pas du tout une attitude de fan, moi. Pas du tout. Je suis très ironique, j'ai beaucoup de distance ironique avec les choses. Et dès qu'il y a un milieu qui est un peu à la limite de l'incestueux et de l'autoréférence permanente, comme ça, moi j'ai tout de suite envie de m'écarter et d'avoir un regard un peu moqueur là-dessus. Et, Et donc Lupus partait d'une démarche purement ludique au début, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé après le succès de Pilule Bleue, on s'est retrouvé un soir dans un café avec les gens d'Atrabile, puis on s'est dit bon maintenant on fait quoi ? Enfin qu'est-ce que je fais quoi ? Parce qu'après ça, c'est compliqué quand on a un gros succès totalement inattendu et tout d'un coup on sent que les gens vont nous attendre. Puis tout le monde voulait une suite à Pilule Bleue, tout ça, ce qui est évidemment exclu.
T'aurais pu faire raconter ta vie pendant des années.
J'aurais pu capitaliser pendant des années. Ouais, non. Et donc on s'est dit, comme on est un tout petit éditeur indépendant suisse qui fait des livres en noir et blanc, on s'est dit on va mettre Soleil à genoux, quoi. Voilà ce qu'on va faire. Ils vont nous manger dans la main, vous allez voir. Évidemment, tout ça, c'était une vaste blague. Et qu'est-ce qu'il faut faire, donc ? Bah, soit de l'heroic fantasy, soit de la SF. C'est-à-dire, faisons le contre-pied total, quoi. Allons dans les domaines les plus référencés. Et retournons ça comme une chaussette. Voilà. Et donc, moi, comme l'heroic fantasy, c'est encore moins mon truc que la science-fiction, parce qu'il y a de la magie et tout ça, et je ne suis pas du tout mystique, en fait. Moi, je suis totalement anti-mystique. Donc, en fait, si je fais un heroic fantasy, je vais faire une histoire moyenâgeuse, en fait, parce que je vais supprimer les créatures et la magie, donc il ne restera rien du tout. Et donc, allons dans la SF, quoi. Faisons quelque chose, retournons la science-fiction. Faisons du noir et blanc, là où c'est un style coloré. N'inventons absolument aucune civilisation, aucun langage, ne préparons absolument rien, faisons de la science-fiction comme j'ai fait de l'autobiographie, ce qui est le cas. Donc en fait, on est parti, je sais pas pourquoi je dis on d'ailleurs, parce que c'est totalement personnel, donc je suis parti dans une histoire d'improvisation totale. La paternité, c'est amusant, c'est en fait pas du tout au départ, mais comme c'est un récit improvisé, les événements de l'actualité mondiale comme de mon actualité la plus intime viennent se greffer au récit au fur et à mesure. Et il se trouve que ma compagne est tombée enceinte à peu près au milieu du volume 2. Et donc je me suis dit, mais attends, mais en fait, il faut exploiter ça, quoi. Donc le personnage féminin de la série est tombé enceinte. Et c'était génial parce que ça m'a permis d'aller utiliser ce qui se passe d'étrange à l'intérieur d'un jeune homme quand il sait qu'il va devenir père. Et en plus, je vais pouvoir dessiner une femme enceinte puisque je l'aurai sous la main. Parce qu'une femme enceinte bouge d'une façon différente. C'est, pour un dessinateur qui aime faire du croquis, c'est passionnant. Et puis son humeur change, les rapports avec sa femme quand elle est enceinte changent, ça a une incidence sur la sexualité, tout ça m'intéressait énormément et c'est venu nourrir le récit. Et probablement qu'à l'arrivée, on a peut-être effectivement un récit sur la paternité, entre autres multiples choses. Mais par contre, je voulais faire un vrai récit de science-fiction, dans le sens où ça n'est pas un cadre artificiel. Quand les gens venaient me dire « Non, oui, mais Lupus, ça pourrait être un western » ou « Non, c'est pas vrai. » Moi, je voulais perdre des gens dans un contexte non référencé de façon à les mettre en face de leur propre solitude. Il y a une phrase de Moebius qui m'a marqué quand je l'avais lu adolescent et qui ne m'a jamais quitté, et qui disait que pour lui, la science-fiction, c'était le meilleur moyen de dessiner à l'extérieur les paysages intérieurs des personnages. Et voilà, pour moi, la SF, c'est ça.
C'est vrai qu'il y a un moment où ils se retrouvent bloqués dans une station spatiale, ils sont face à leur solitude. Ceci dit, je trouve que la façon dont tu utilises la SF dans Lupus est complètement différente de la façon dont tu l'utilises dans Hama, on y viendra plus tard.
Ouais.
Où là, tu l'utilises d'une manière plus habituelle, disons. Voilà. Là, c'est quand même plus un décor qui n'intervient pas sur l'histoire, mais qui intervient sur les personnages, mais pas sur l'intrigue, si tu veux.
Non,
ça aurait pu se dérouler ailleurs.
Politiquement et socialement, ouais. Il n'y a pas de science-fiction.
Ouais.
Mais, et même et scientifiquement,
il n'y a pas de science-fiction. Graphiquement, c'est
Mais c'est primordial. Voilà. Graphiquement, c'est primordial. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'espace, il faut qu'il y ait des mondes étranges, parce que ça doit faire écho à ce que traversent intimement les personnages. Et en plus, ça a une fonction, une raison d'être supplémentaire qui est intéressante, c'est que parmi les contraintes que je m'étais fixées au départ, je m'étais fixé de ne jamais aller, et ça c'est la même chose pour Ahama, mais on en parlera après, de ne jamais aller chercher les références dans la science-fiction. C'est-à-dire que chaque fois que je dessinais un élément technologique, un vaisseau spatial, une lampe, une chambre, que sais-je, ça ne devait provenir que de mon bureau. C'est pour ça que tous les éléments sont des cendriers, des lampes, des taille-crayons, que des choses comme ça. Après, bon, en fait, au milieu du volume 2, j'ai commencé à migrer vers la cuisine parce que j'avais épuisé mon bureau. Mais l'idée, c'était d'être en permanence dans l'ironie, c'est-à-dire de se dire, de s'amuser de ces créateurs d'univers qui passent 3 ans à concevoir un vaisseau spatial. Moi, je me dis, un vaisseau spatial, c'est mon cendrier, donc je prends mon cendrier, basta, quoi. Voilà.
En même temps, je ne sais pas chronologiquement, mais en même temps, il y a une autre série qui sort, peut-être plus grand public, en tout cas dans le format, parce que c'est un 46 pages couleur classique, ouais, qui s'appelle Coma, qui est scénarisé par Wazem, mais dont tu es à l'origine. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment...
Bah, je suis à l'origine parce qu'en fait, la série est basée sur un dessin. J'avais un jour, dans un carnet, dessiné cette petite fille qui ressemblait à peu près au personnage final, avec un gros monstre noir derrière. Le lien avec la maladie présente dans ma vie quotidienne était une évidence. Et j'avais pas envie de repartir là-dedans, moi. Et à l'époque, j'étais très proche de Pierre Wazem. Et en plus, je trouvais que c'est un des auteurs les plus intéressants pour faire parler les enfants, Pierre. C'est-à-dire qu'il arrive à rendre la cruauté et la violence de l'enfance. Voilà. Moi, je déteste la mièvrerie, et encore plus quand c'est lié à l'enfance ou aux histoires d'amour ou tous ces trucs-là. Et donc, il me fallait quelqu'un qui sache parler de ça, qui n'allait pas m'énerver avec en faisant vivre cette gamine, quoi. Et donc, je lui ai proposé ça en me disant, bah, ça marche, enfin, peut-être qu'il refusera. Voilà. Mais en fait, il s'est enthousiasmé pour cette histoire, enfin, pour ce dessin. Voilà. Et après, bah, on s'est enfermé une après-midi dans son atelier. On a juste discuté du contexte, mis en place ce qui pourrait être une charte, enfin, en gros, ce qui définit les limites du monde. À quel moment est-ce qu'on s'autorise à faire du vrai fantastique, quelles références on va utiliser. Et voilà, et après, il est parti. Après, c'était très simple, c'est-à-dire il écrivait un scénario, il me rendait le scénario, je dessinais le scénario. Tout ça est très classique.
D'accord. Au final, ça donne une série un peu fantastique, à la fois pour enfants et pour...
Bah, c'est une série un peu bancale, en fait. À l'arrivée, je suis un peu, je sais pas trop quoi faire avec ça, parce que il y avait aussi l'envie de faire de la BD classique avec du 48 pages cartonné couleur. Et en fait, faut jamais commencer comme ça, en fait. Faut jamais mettre
le
format et l'objet avant le propos, quoi. Donc là, il y a eu une erreur. On aurait dû mettre au clair dès le départ à qui on s'adressait. J'ai participé au jury pour le prix BD hier, et on avait un livre qui était comme ça. C'est des livres qui sont le cul entre deux chaises, on ne sait pas trop à qui ça s'adresse. Et puis je suis moyennement convaincu de la fin, mais comme ça se faisait au fur et à mesure, et que Pierre avait ça en tête depuis le début et qu'il voulait qu'on se surprenne l'un l'autre, le jeu me convenait tout à fait, mais au bout d'un moment... Ben voilà, la fin, on pouvait plus s'en passer, elle était bétonnée. Donc voilà, il y a quelques... Mais je suis très content du... Il y a des passages que je trouve miraculeux dans cette série, parce que Pierre a un sens du loufoque et de l'absurdité qui me plaît énormément. Et il y a tout un passage dans un hôtel avec dans un décor un peu de comédie américaine des années 30, comme ça, avec des personnages qui changent en permanence de visage, et il y a des espèces de quiproquos qui sont presque du, du boulevard. Enfin, il y a un côté Capra, mais fantastique. Il y a un ton qu'il a réussi à trouver à plusieurs moments qui est assez miraculeux. C'était vraiment jouissif à dessiner, quoi. Ouais.
On arrive à 2007. Et là, c'est Hergé, donc c'est le...
Ah, Hergé.
Rien à voir avec Tintin. Qui est une série policière hyper réaliste, on peut dire, puisqu'elle est scénarisée par un...
Non, elle est scénarisée par moi.
Elle est avec des anecdotes que tu as racontées à un policier.
C'est ça. Alors, bon, faut que je fasse vite, parce qu'autrement, on va y passer un moment, et puis on n'est pas dans un festival de polar.
Oh, mais c'est intéressant, on peut y rester.
Mais ça. Bon, il se trouve qu'un jour, je rentre à mon atelier, j'ai un message sur mon répondeur de Johan Sfar, qui est le directeur de la collection Bayou chez Gallimard. Enfin, je crois qu'il s'en est un peu détaché en ce moment, mais à l'époque, il était très impliqué. Et en fait, lui, c'était la période des caricatures, de l'affaire des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo. Et lui était assez proche de Philippe Val. Et donc, quand il allait manger avec Philippe Val, il allait également manger avec le garde du corps que le ministère de l'Intérieur avait collé sur le dos de Philippe Val. Parce que c'était une période assez chaude à ce moment-là. Et voilà, et donc il s'est retrouvé avec cette espèce de pseudo barbouze un peu bracassé comme ça avec l'accent du sud qui fourmillait d'anecdotes truculentes et dans le cerveau malade de Johan a germé l'idée que ce serait marrant de faire se rencontrer ce type avec un auteur suisse qui raconte des histoires d'amour dans l'espace.
Et est-ce que ça a été marrant?
Bah ouais, en fait, je pense que l'idée était très bonne, c'est-à-dire que ça a donné lieu à des livres assez improbables dont moi je suis assez fier. En tout cas, je sais pas si j'en suis fier, mais disons que j'ai accompli là quelque chose dont je soupçonnais pas que j'étais capable, et en plus avec énormément de plaisir et de facilité. Et voilà, donc ce qui se passe, c'est que j'ai accepté la proposition. Donc j'ai rencontré ce flic des renseignements généraux deux fois trois heures dans un café parisien, un café de flic. Je vous conseille l'expérience, c'est vraiment très amusant. C'est un drôle de milieu, enfin, c'est vraiment un monde hallucinant, quoi. D'abord parce que très français, ensuite très parisien. Et ensuite avec des codes qui sont pas du tout les miens, quoi. Donc avec des gens qui sont totalement étrangers à qui je suis. Donc c'était vraiment passionnant. Et voilà, en fait, ça s'est présenté comme une forme d'entretien journalistique, en fait. C'est-à-dire que c'était très intense, ces entretiens où je lui posais des questions, il me racontait des anecdotes et je prenais des notes en même temps et je devais en fait mentalement élaborer une structure scénaristique pour orienter mes questions de façon à ce que ces anecdotes s'intègrent dans une trame qu'en fait je n'avais pas, c'est-à-dire je devais l'élaborer sur le moment, quoi. Donc c'était un jeu très très intense parce que lui voulait raconter des choses qui n'avaient aucun intérêt parfois et en plus il s'intéressait pas aux mêmes choses que moi, c'est-à-dire que lui voulait raconter des poursuites de bagnoles et des trucs comme ça et moi ça, non seulement je m'en fous mais en plus en bande dessinée ça n'a aucun intérêt et moi je voulais tous les moments où il s'emmerde à bouffer des sandwichs aux rillettes dans des camionnettes mais en même temps il me fournissait quand même, il arrivait à faire passer en loose day des choses un peu rocambolesques et donc il y avait un jeu de ping-pong assez marrant voilà. Et donc je suis rentré et j'ai quasiment écrit le scénario dans le TGV en fait en rentrant, quoi, parce que j'avais le cerveau en ébullition et voilà. Alors, parce que, alors, oui, l'autre chose qui change, c'est que moi je n'ai jamais écrit de scénario, en fait. Moi j'ai toujours travaillé en improvisation pour tous mes bouquins. Sauf pour celui-là, parce que ça devait être validé par la hiérarchie policière. Donc j'ai dû écrire un scénario. Donc déjà rien que ça, c'était très amusant. C'est là que j'ai réalisé qu'en fait c'était assez facile et que je comprenais pourquoi. C'est-à-dire c'est assez facile pour quelqu'un qui est aussi dessinateur. Et c'était compliqué parce que je devais mettre des choses dans le scénario de façon à rendre cela visible par des gens qui n'avaient pas vu mentalement l'histoire. Donc c'était un jeu assez intéressant à faire pour moi. Et voilà, j'ai perdu le film, mais le bouquin est sorti et ça a eu un énorme succès aussi, ça. Et donc on en a fait un deuxième, mais le problème, c'est que... En fait, je pense que le problème a commencé à Angoulême, parce que moi j'avais reçu un prix à Angoulême pour Lupus. Et ça faisait 10 ans que j'allais à Angoulême, depuis les stands fanzines, etc. Et donc je me suis dit, ah, j'ai reçu un prix, je vais donc, l'année suivante, je ne vais pas aller à Angoulême parce que je suis sûr de percevoir un prix puisque je l'ai reçu l'année d'avant. Et le malheur, c'est que l'année suivante, Hergé a aussi reçu un prix à Angoulême et que la seule personne qui était présente, c'était le flic. Et donc le flic est monté sur scène. Et ensuite, il y a eu l'agitation médiatique, etc. Et les gens se sont adressés à lui comme étant le scénariste. Ce qui, moi, m'arrangeait énormément parce que ça faisait vendre le livre. C'est-à-dire que tout d'un coup, les journalistes avaient une accroche. Et le flic qui écrit des scénarios de BD. Donc c'était fantastique parce que du coup, il y a eu énormément de presse. Et c'était très bon pour le livre. Mais le problème, c'est qu'il a commencé à se prendre au jeu, quoi. Et il a commencé non seulement à se prendre au jeu du scénariste, mais à se prendre au jeu du personnage. Et moi, je voulais un deuxième volume qui se passait en hiver, qui était plus sombre, plus brumeux, plus profond, peut-être. Et le personnage commence à dans le livre commence à rêver, à faire des cauchemars. Il y avait une séquence où il rêvait, qu'il tombait dans une espèce de, il était cerné par des personnages masqués, puis il tombait dans un cube aquatique comme ça. Et le personnage était nu. Et en voyant les planches, alors qu'il avait validé le scénario, parce que j'avais pas expliqué les images dans le scénario. Et dans cette séquence, le personnage était nu et il a lu le bouquin, puis il a fait deux commentaires. Et il m'a dit, le premier commentaire, il m'a dit, bon, d'abord, bon, tout ça c'est super, mais d'abord, bon, je veux pas qu'on voit mon sexe.
Ouais, c'est rigolo ça.
Ouais, c'est incroyable. Non, et là, tout d'un coup, j'ai réalisé le problème. On allait avoir un problème. Donc, j'ai essayé de lui expliquer que ça n'était pas son sexe. Parce que d'abord, c'est un sexe dessiné. Et en plus, ça n'est pas lui. C'est-à-dire que c'est pas parce que son alter ego est nu. Même son nom, je l'ai inventé. Pierre Dragon, c'est un nom inventé que j'ai inventé parce qu'il voulait pas paraître publiquement. Et donc là, j'ai compris qu'il y avait une confusion qui commençait à s'installer. Et la deuxième réflexion, et là, j'ai compris que j'allais avoir encore plus de problèmes, c'est qu'il a une aventure amoureuse avec une juge d'instruction brune dans le second volume. Et il m'a dit, pour cette fois, ça va que tu me fasses coucher avec une brune, mais moi, je préfère quand je couche avec des blondes. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça, putain. Voilà, et puis en fait, il a voulu, n'étant pas satisfait de ses dérives scénaristiques, hein, parce qu'on est vraiment dans la dérive,
honteuse.
Il a voulu écrire le troisième volume, et quand j'ai reçu sa proposition, j'ai dit, bah, très bien, super, vas-y. Et donc, il a écrit un truc que je ne peux pas appeler autrement, et c'était totalement infaisable. Et donc, j'ai appelé Gallimard, et je leur ai dit, écoutez, on va avoir un problème, parce que moi, il ne veut pas lâcher son truc, et moi, je ne vais pas pouvoir faire ça, parce que j'ai un peu de dignité. Mais en fait, les gens de Gallimard ont soupiré de bonheur parce que ça faisait un an que ce type les rendait fous et qu'ils ne supportaient plus de travailler avec lui. Et il s'est dit, bon, tant que Fred est d'accord, on continue. Et en fait, moi, je pensais qu'ils allaient tous tirer la gueule et ils étaient tous merveilleusement soulagés. Voilà, c'est fin de l'histoire.
Pachyderme,
on va aller très vite.
Ouais, c'est le bouquin d'après, narration plus classique.
Pachyderme était une tentative de surréalisme mêlé à un hommage à ces comédies des années 30-40 dont j'ai déjà parlé et que j'adore absolument et par-dessus tout. Et donc on arrive à une espèce de chose. Ah oui, puis je voulais aussi travailler sur la Suisse, voilà. Je voulais faire un bouquin qui tente de rendre une sorte d'esprit suisse comme moi je le perçois quand je pars de chez moi et que je rentre chez moi. Mais là, ça c'est un autre débat et on va en avoir pour des heures. Mais c'était une tentative de travailler sur ces émotions-là. Et puis en plus, le problème de Pachyderme, c'est que ça n'est pas de la pure improvisation. Il y a une partie d'improvisation et il y a une partie où j'ai tenté d'intégrer des dialogues que j'avais écrits et qui étaient totalement séparés d'histoire. Donc, il y a une tentative d'agglomérer des notes et des visions dans un objet étrange. Et c'est là qu'on a les limites de la relation avec un éditeur qui vous laisse trop de liberté. C'est-à-dire que comme Hergé avait eu beaucoup de succès et que ça s'était fini dans les problèmes relationnels, Gallimard a voulu me dire... ils sont trop bons avec moi. Quoi. Ils m'ont dit, mais tu fais ce que tu veux. Quoi, en fait. Vas-y, fais ce que tu veux. Et peut-être que des fois, il faut avoir un rapport. Bon, moi, je suis très content de ce livre parce qu'il touche des choses, et notamment le rapport à l'érotisme, le rapport au fait que le personnage principal est une femme. Je pense qu'il y a des émotions là-dedans dont je suis très content. Mais scénaristiquement, il aurait fallu... C'est le problème quand on fait un scénario qui donne l'illusion d'un scénario extrêmement construit, un scénario type puzzle, alors qu'en fait, c'est de l'improvisation. Voilà, on retombe sur l'histoire du cul entre deux chaises. Mais on va en parler sur Ahama, parce que tu vas... Ah non, il y a quoi ? Il y a Château de Sable.
J'aimerais qu'on en parle, parce que c'est quand même... C'est du fantastique qui confine à la SF, quand même, Château de Sable. Ouais. Et pour moi, ça ressemble à un épisode de la quatrième dimension. C'est ça, vraiment c'est ça. Bizarre. Et c'est vraiment un livre... très étrange, et moi ouais. J'ai beaucoup aimé ce bouquin
ouais, moi aussi,
où,
ouais.
Où des personnages se retrouvent, tu me dis si c'est pas ça, se retrouvent sur une plage et commencent à vieillir de façon très très rapide et à finir par mourir quoi. Les plus âgés meurent très vite et les petits grandissent très vite, et c'est une espèce d'étude, un microcosme, comme si on étudiait les personnages de leur vie à leur mort, mais dans un temps très réduit.
Voilà.
Ben c'est fascinant.
En fait, c'est basé sur l'idée de base de l'ange exterminateur de Louis Buñuel. Pour ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu, il faut voir l'ange exterminateur. Et dans l'ange exterminateur, c'est une façon de déconstruire la société bourgeoise, parce que c'est des bourgeois qui arrivent dans une maison pour une fête très guindée, comme ça. Et tout d'un coup, pour une raison totalement inexplicable, ils ne peuvent plus quitter le salon. Et on va assister à la désagrégation totale c'est un film mexicain, c'est la période mexicaine de Buñuel, la désagrégation totale de cette société bourgeoise et catholique mexicaine. Là, on a rajouté, parce que sinon, ça aurait été un pur hommage, l'idée que les gens vieillissent en accéléré. On ne peut pas en parler pendant des heures. Je vais juste vous raconter l'anecdote de la genèse de l'histoire, parce que c'est intéressant. Pierre-Oscar Lévy, qui a écrit l'histoire, a, il y a de nombreuses années, acheté les droits pour faire une adaptation de Pilule Bleue, qui ne s'est jamais fait. C'est un documentariste à la base, mais qui voulait faire un film de fiction en long métrage. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et c'est un type qui a une soixantaine d'années maintenant, de 55 ans, un truc comme ça, et qui est complètement fou. C'est-à-dire que c'est une espèce de... C'est pour moi, c'était fascinant parce que c'est le prototype de cette espèce d'intellectuel juif parisien extrêmement à gauche qui en 68 avait 14 ans et lançait des pavés, extrêmement érudit, extrêmement cultivé, en même temps totalement foutraque, qui ne sait pas quoi faire de sa judéité, qui est dans un conflit permanent avec tout le monde. Absolument le contraire de moi, quoi. Et donc, je me suis en fait pris d'affection pour ce mec. Et il m'a dit, je vais t'écrire un scénario. Et j'ai dit, mais putain, mais Pierre-Oscar, mais si tu m'écris un scénario de BD, mais ça va être un truc pas possible. Il m'a dit, bon, écris-moi un scénario, mais je le ferai pas. Il me dit, ouais, je le fais, tu le liras, tu me diras. D'abord, je me suis dit, il va jamais l'écrire. Et il l'a écrit en 3 mois, quoi. Il a écrit un truc. Il m'a dit, voilà, je t'envoie, tu verras, tu me dis. Je dis, bon, écoute, Pierre-Oscar, je vais le lire, mais je le ferai pas, quoi. J'ai pas le temps. Et en fait, ce type qui ne parle que de références de haute littérature, de philosophie et de films que personne n'a jamais vu et ne verra jamais, a fait une espèce de comme tu l'as dit, un épisode de la quatrième dimension.
Il est devenu Richard Matheson, quoi.
Tout ouais, coup, exactement. Voilà. Tout d'un coup, ce type qui est Georges Perec, c'est muet en Gérard Matheson, quoi.
En gardant quand même quelques trucs de Georges Perec. C'est ça qui
ouais,
est
ouais,
bien.
En gardant du Georges Perec, parce que en plus, ce qui est génial, c'est que il met là-dedans ses propres obsessions et un truc que Matheson n'aurait jamais fait, par exemple, qui est que les enfants grandissent dans cette histoire. Les enfants, en quelques heures, deviennent adultes. Et donc, ces enfants sont submergés par leurs hormones et leurs désirs sexuels. Et donc, on a des enfants qui ont une alors qu'ils ont encore une mentalité d'enfant, parce que les personnages, mentalement, contrairement à ce qu'on m'a dit, n'évoluent pas. Si on y fait attention, les personnages gardent leur mentalité. Et donc, on, tout d'un coup, se mettent à baiser les uns avec les autres. Quoi. Je me suis dit, ce truc-là, ça, c'est un truc de 68. Quoi. C'est, personne ne peut faire une histoire comme ça aujourd'hui. Quoi. Mmh. Et donc, c'était, moi, j'ai pris un bonheur à faire ça parce que c'était tout à fait inconfortable. Et en plus, c'était la période où mon gamin devenait adolescent, etc. Non, c'était super à faire. Et totalement inattendu, et totalement miraculeux, en fait. Voilà. Je précise juste pour l'anecdote qu'il avait mis une fin, lui. Hein. Il y a une explication dans son scénario original au phénomène que les gens vivent. Et je me suis dit, mais attends, mais toi qui es un fan de Buñuel, dans L'Ange Exterminateur, il n'y a aucune explication. Il faut absolument virer cette explication.
On n'attend pas, de toute façon.
Beaucoup de gens l'attendaient. Ouais, hein. Ouais. Mais le fait qu'il n'y en ait pas transforme le récit en une fable allégorique, là où, avec l'explication, on avait une série B un peu moisie, quoi.
On arrive à Ama qui est en retour à la vraie SF.
On a dit une minute pour parler.
Ouais. On c'est bien parce qu'on a vu un peu par où tout tu es passé, par où et où on arrive. C'est contrairement à Lupus. Là, la SF, tu t'en sers pour poser des questionnements qui dépassent les personnages. Vraiment, hein, j'ai l'impression. Tu vas me dire. On a plein de questionnement sur la technologie, et plus ça va, plus j'ai l'impression que dans toute la série, alors c'est prévu en 4 volumes, il y en a 3 ouais. Pour l'instant de publier, que c'est une question sur la condition humaine, quoi. Ouais. Un bouquin sur la condition humaine, la place de l'homme dans l'univers, enfin, plus ça va, plus ça devient un truc à la 2001 qui prend une ampleur, et c'est pour ça que je dis...
C'est bien parce que la référence n'est pas écrasante, hein. Je te remercie. Oui.
C'est, voilà, on passe à une SF d'une autre ampleur et plus juste qui reflète les personnages.
Alors à l'origine, moi, je me suis retrouvé à un moment de ma carrière entre guillemets, parce que ça commence à ressembler à une carrière. En fait, c'est terrible. Où je me suis demandé quel était le travail qui m'avait procuré le plus de plaisir. Et c'était Lupus, incontestablement, c'est-à-dire c'était ce mélange d'improvisation en totale liberté dans un cadre de science-fiction. Donc j'ai essayé de retrouver cette sensation-là. Mais je me suis dit, cette fois, je ne vais pas reproduire ce que j'ai fait, c'est-à-dire cette fois, je vais supprimer l'ironie. Je vais prendre le genre et je vais mettre au cœur du récit une interrogation typiquement SF, c'est-à-dire en gros... Je prends un des aspects du monde dans lequel on vit, je le déforme, je l'extrapole dans un monde pseudo-futuriste, mais qui est plutôt en fait parallèle que futuriste, mais enfin bref, pour s'interroger sur l'influence que ça peut avoir sur notre condition d'humain. Et puis cette fois, c'est de la couleur, c'est je respecte les codes, quoi. Cette fois, j'y vais avec bonheur et franchise, en fait. Et j'ai donc lu quelques classiques de SF, mais pas trop, parce qu'il faut pas. Je me suis rendu compte qu'en fait, la SF européenne, et spécialement d'Europe de l'Est, en fait, est celle qui me touche le plus.
Et
plus
Strugavski, Lem,
et voilà, on a dit les trois parce qu'ils sont les trois saints patrons, mais c'est ça. Plus que les anglo-saxons qui font reposer sur une intrigue et aussi sur une présence souvent écrasante du monde qu'ils ont imaginé. C'est-à-dire que ces gens ont passé des années à imaginer un monde, ben putain, faut qu'on le voit, quoi. Et souvent, ça prend le pas sur les personnages. Et sur... Bon, ça, c'est du goût personnel. Hein, c'est uniquement du goût personnel. Voilà, donc je me suis un peu documenté. Et puis, comment tout ça s'est fait Moi, j'ai remarqué depuis plusieurs années, parce que j'aime beaucoup faire des croquis des gens. Et il y a quelque chose qui me frappe, et qui est une anecdote, mais qui est très amusante. C'est que je fais souvent des croquis dans les aéroports, dans les gares, dans les endroits où les gens attendent. Parce que comme ça, ils sont immobiles. Et j'ai constaté que depuis plusieurs années, je ne vois plus les yeux des gens que je dessine. Et c'est frappant, parce que tout le monde est scotché sur son putain de téléphone portable. Et je vous jure qu'il y a 10 ans, c'était pas comme ça, quoi. Il y a un truc totalement effrayant. Ça m'a refait le coup quand j'attendais à l'aéroport. Là, j'avais envie de dessiner des gens qui étaient en face de moi. Et c'est pas possible, parce que les gens ne sont plus là, quoi. Les gens ne se regardent plus, les gens... C'est terrible, quoi. Et moi, j'ai un rapport très conflictuel avec tout ça. J'ai un rapport assez nostalgique, assez désespéré.
Il y a beaucoup de ça dans le bouquin sur la technologie.
Mais c'est plus compliqué que ça parce que moi, je vis avec des gens qui sont maintenus en vie par la puissance technologique de la médecine moderne. Et je me retrouve avec des questionnements assez complexes et très intéressants. Qu'est-ce qui là-dedans va nous perdre ou nous sauver? J'avais lu une phrase dans un article qui était très intéressante et qui avait j'aime pas du tout les jeux de mots, mais ça c'était un jeu de mots qui était assez marrant, qui disait est-ce que l'homme augmenté est-il un homme diminué? Ça pourrait être une des phrases qui plane au-dessus de la série AMA. Donc j'ai créé ce personnage qui est une sorte de déformation de ce qu'il y a de plus mauvais en moi. Ça n'est pas moi. Mais il se retrouve dans un monde où toutes les interfaces de communication ont disparu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ni téléphone, ni lunettes, ni quoi que ce soit. Les cerveaux sont directement connectés les uns aux autres. Tout ça est assez... Alors là, je fais frissonner les gens quand je suis dans un festival normal, mais dans un festival de science-fiction, c'est totalement... c'est le décor normal, voilà, exactement. Ben, voilà, et alors, donc, le problème, c'est qu'en fait, moi, je m'en fous un peu de tout ça. Donc, je l'établis, je le mets en place, mais ce qui m'intéresse, c'est le rapport que le personnage va avoir avec tout ça. Il se trouve que le personnage principal, lui, a une boutique d'antiquités, et il vend des objets que tout le monde a oubliés, qu'on appelle des livres en papier, quoi. Donc, il vit dans une mégalopole de 65 milliards d'habitants, où ça ne s'est pas mentionné, mais on s'en fout, et il a le seul magasin qui continue à vendre des livres. Et lui, évidemment, il vit dans une espèce de mythologie, d'un passé qui serait un passé fait de...
Qui vient du père, en plus.
Qui vient du père, qui vient de son père, c'est la boutique de son père. Et il a été élevé là-dedans, il est nommé suivant son nom, son prénom vient d'un roman de Conrad, son frère s'appelle Conrad. Donc ils ont été élevés dans une espèce de mythologie d'un monde passé où tout le monde aurait été un grand esprit littéraire. Voilà, comme peut-être on a parfois tendance à imaginer la Renaissance italienne ou la Grèce athénienne.
Ou la période romantique française.
Ou les romantiques français. On a tendance à construire des mythes alors qu'évidemment ça concernait une élite. Enfin bref, mais ce n'est pas le propos. Et donc lui, il est en conflit avec le monde. Il est en conflit avec le monde dans lequel il vit. Et il va, au fur et à mesure du récit, se retrouver embarqué par son frère qui, lui, est tout ce qu'il... déteste a priori, c'est-à-dire son frère, lui, il a décidé d'abandonner la résistance avec le monde. Il a décidé de se plonger dans cette société et d'utiliser tout ça, de ne pas trop y réfléchir et d'en faire son beurre. Il est devenu cadre dans une grande société de biorobotique. Il essaie d'éviter de se poser trop de questions. Il juge que résister au monde n'a aucun intérêt et que peut-être que l'humanité pourra être sauvée par sa propre évolution technologique. Voilà. Là où le frère, lui, juge que l'omniprésence de la technologie... Salut ! Faut arrêter ? Non, ah bon. Là où le personnage principal, lui, juge que la technologie, c'est la mort de la pensée et donc la mort de l'humanité. C'est-à-dire qu'il juge que quand on est en permanence dans la communication, on n'a plus le temps de la pensée, et quand on n'a plus le temps de la pensée, on perd son humanité. C'est deux points de vue très caricaturaux et dogmatiques, mais c'est très pratique parce qu'ils sont frères en plus, donc ça permet de... Voilà. Et donc la question c'est en gros, est-ce que ce personnage va se retrouver en porte-à-faux, c'est-à-dire il va donner naissance à une petite fille qui, à cause de son mode de vie naturel à lui, puisqu'il n'a pas d'implant, pas de correction génétique, il essaie de vivre totalement naturellement parce qu'il juge que les défauts, les accidents, la saleté, la souffrance, tout ça fait partie de la nature humaine. Et donc il décide de faire un enfant naturellement, comme plus personne ne le fait. Et donc il donne vie à une petite fille qui est anormale, en fait, qui répond à des symptômes qui se rapprochent de ce qu'est l'autisme ou... Une difficulté à communiquer. En fait, il enfante une gamine qui est une handicapée
dans ce monde
de la communication, dans un monde qui n'est plus que communication. Et la question face à laquelle il va devoir réfléchir et prendre position est: vais-je renoncer à mes idéaux et à ma résistance et à mes envies de révolution pour sauver ma fille? C'est-à-dire, est-ce que la technologie inventée par l'humain va être à la source de sa perte ou au contraire à la source de sa sauvegarde. C'est une question qui se pose absolument aujourd'hui. Hein. C'est des débats qu'on entend souvent. Tout ce qui serait les intégristes, transhumanistes ou tous ces gens-là pensent qu'il faut aller à fond dans la consommation et l'exploitation de la technologie parce que c'est le seul moyen qu'on a de se sauver et de sauver notre environnement naturel et le rapport qu'on a au monde. En gros, c'est de prendre possession et de notre propre évolution et de l'évolution de la nature. On est destiné à ça. Hein. C'est la vision occidentale de l'homme berger. Hein. Un peu, c'est Descartes, en fait. C'est l'homme berger qui s'occupe du monde. Et j'ai perdu le fil.
Moi, je me demandais...
J'ai perdu le fil. C'était intéressant, fait chier. Mais monsieur fait une foire. De toute manière, foire.
Faut arrêter. On n'a pas le temps pour une question dans le public, non ? Non, on n'a pas le temps. Bon.
Ah bon. C'est bon. Un peu abrupt.
Ouais.
Surtout que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, c'est dramatique. Bon, tant pis.
Non, mais on a bien compris ce qu'était Ama et on sent bien l'influence de Lem. Il y a un petit côté solaire.
Ouais, il y a un petit côté solaire. Mais en fait, c'est toujours, en fait, c'est simplement une science-fiction qui fait la part belle et aux rapports humains et aux ambiances. Et peut-être à des sensations troubles, profondes. Et qui font vibrer des cordes qu'on n'arrive pas nous-mêmes à cerner, quoi. Ce sont les mêmes cordes qui vibrent quand on fait des rêves et des cauchemars, les mêmes cordes qui vibrent quand on fait une analyse psychanalytique. Voilà, la science-fiction me semble un excellent outil pour aller titiller ces cordes-là plutôt que de faire des grands enjeux spatiaux, géopolitiques ou que sais-je. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une parenté avec Lem et des gens comme ça.
Ça, c'est une belle conclusion.
C'est une belle conclusion. Ouais. Voilà, parfait.
Merci. Merci Frédéric. Merci.